Chapitre 10e. Pendant 5 soirées, le docteur Tarot vint ainsi de 8h à minuit. Puis la maladie étant entrée dans la période de résolution franche, il avait continué à venir encore, mais il n'était plus resté que 2 heures, de 8 à 10. Alors il ne s'était plus tenu dans la chambre de la malade, car Madame Marguerite n'avait plus besoin qu'on la veillât, et d'ailleurs elle s'endormait de bonne heure, de ce sommeil réparateur de la convalescence, si agréable après plusieurs nuits de fièvre. Aussitôt que le médecin avait constaté son état, c'est-à-dire la persistance de l'amélioration, il sortait de la chambre et il passait dans la pièce qui servait à Hélène d'antichambre, de salle à manger et de salon, et il restait à causer à mi-voix. Le temps passait sans qu'ils s'en rendissent compte, et quand, dans le silence de la nuit, ils entendaient l'horloge du clocher sonner 10 heures, ils étaient toujours surpris. « Et quoi, 10 heures ?» s'écria Hélène. « Vous avez sommeil ?»« Oh, pas du tout, mais il est temps de se coucher. Je me sauve. » Elle le reconduisait pour lui ouvrir la porte du rez-de-chaussée. La place était déserte, toutes les fenêtres étaient sombres, le village dormait. « À demain matin, » disait Tarot. « À demain, et merci. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle, de cette bonne soirée. » Elle refermait la porte, et en écoutant, elle l'entendait s'éloigner. Le bruit de ses pas s'affaiblissait, puis le silence se faisait. Elle remontait. Et après avoir été voir si sa grand-mère n'avait besoin de rien, elle se déshabillait lentement en rêvant, et à ce qu'ils avaient dit dans ce long bavardage, et au médecin lui-même. Comme il avait été doux avec sa grand-mère et dévoué, comme il l'avait bien soignée, il l'avait sauvée. Mais ce n'était pas seulement de la reconnaissance qu'elle éprouvait pour le médecin, c'était encore une vive, très vive sympathie qu'elle ressentait pour l'homme. Elle le voyait beau garçon avec l'air simple et ouvert, et ce qui avait plus d'importance à ses yeux, elle le trouvait intelligent, d'une gaieté bienveillante et facile. Ses heures d'entretien étaient pour elle pleines de charme. Il lui semblait que depuis qu'elle le connaissait, elle vivait d'une vie nouvelle. Et arrangeant ses cheveux devant sa glace, elle n'avait plus la pensée de les couper, ni le désir qu'ils devinssent blancs tout à coup. Il y avait donc des jours où l'on pouvait souhaiter de n'être pas laide. Chose curieuse qui la faisait longuement réfléchir, elle, si prompte à s'inquiéter ou à se troubler, elle n'avait jamais éprouvé la moindre inquiétude, ni même le plus léger trouble, quand elle avait senti les regards du jeune médecin fixés sur les siens. C'est que ces regards n'étaient pas un outrage, ils étaient une caresse, et la plus douce qui lui eût jamais été faite. L'aimait-il? Il ne le lui avait pas dit, mais elle le croyait, et il n'y avait dans cet amour, s'il existait, rien d'effrayant pour elle. Il n'était pas seulement beau garçon, le jeune médecin, il était aussi honnête homme, elle en était sûre. S'il l'aimait comme elle le croyait, comme elle était heureuse de le croire, elle n'avait rien à craindre de lui. Qu'avait-elle à espérer? Elle n'en savait rien, ou tout au moins elle n'avait pas de certitude à cet égard, mais elle était convaincue qu'il était homme à se laisser guider par son cœur et non par de misérables questions d'intérêt. Ce qu'elle avait appris de lui dans leur longue conversation, c'était qu'il n'avait aucune fortune. Fils de petits marchands qui avaient épuisé leurs ressources pour le faire un médecin, il était entré dans le monde sans un sou et depuis qu'il s'était fixé à Ivranche, il n'avait pas mis d'argent de côté, mais il vivait, et même largement, sans avoir à faire des dettes ou des emprunts. L'on pouvait calculer le moment à peu près précis où il serait tout à fait à son aise. Dans ces conditions, était-il capable d'épouser une fille pauvre qui n'avait pas un sou à lui apporter, mais qui aurait été bien élevée, qui parlerait la même langue que lui, qui partagerait ses idées et ses goûts, et qui lui plairait? Elle l'estimait trop pour lui faire l'injure de supposer un instant qu'il n'était pas cet homme. Sans doute, elle n'avait pas grande expérience des choses de la vie, mais il lui était impossible d'admettre qu'il n'y ait pas des hommes qui, dans un mariage, ne sont pas avant tout sensibles aux avantages moraux d'une jeune fille, à ses qualités de cœur et d'esprit, qui, mieux que la fortune, croyait-elle, peuvent donner et assurer le bonheur. Et s'il y avait de ces hommes, à coup sûr le docteur Tarot en faisait partie. Ce n'était pas lui qui se marierait pour une dot. S'il aimait celle qu'il aurait jugée digne de son amour, il la trouverait digne d'être sa femme sans se laisser arrêter par des considérations d'intérêt ou de position sociale. L'aimerait-il? L'aimait-il? Devant cette question, elle restait perplexe, trouvant autant de raisons pour l'affirmative que pour la négative, allant de l'une à l'autre sans jamais oser s'arrêter à celle-ci ou à celle-là, certaine de son amour quand il venait de la quitter et que vibraient encore dans son cœur les dernières paroles qu'il lui avait adressées, pleines de doute au contraire, quand elle était restée quelques heures sans le voir, et que la voix du raisonnement étouffait celle du sentiment. Quant à savoir si elle l'aimait, elle n'avait pas toutes ses irrésolutions pour reconnaître qu'aucun homme ne lui avait fait éprouver ce qu'elle ressentait de lui. Follement heureuse lorsqu'il était là, l'écoutant avec délices, le regardant avec ivresse, et lorsqu'ils étaient séparés, l'attendant, n'ayant plus qu'une pensée dans le cœur, lui, qu'un nom dans l'esprit, le sien, qu'un désir, son retour. Où cela la conduirait-il? Sur ce point, elle était beaucoup moins brave, et cette question, elle la réservait. En tout cas, cela l'avait rendue, cela la rendait assez heureuse dans le présent pour qu'elle dût se contenter de jouir de ce présent sans trop se préoccuper de l'avenir. C'était sans arrière-pensée, sans calcul qu'elle aimait. Elle n'avait point de plan pour se faire épouser, elle verrait bien. Et l'attente lui était assez douce pour qu'il lui fût impossible de se plaindre. Qu'il lui eût dit, deux mois auparavant, alors qu'elle était si profondément désespérée, et qu'elle se disait que sa vie ne serait qu'un long martyr, sans repos, sans tendresse, sans amour, qu'elle éprouverait pareil bonheur. Quoi qu'il arrivât, elle reconnut des joies qu'elle n'avait même pas soupçonnées. Son plus grand souci devait être, comme il l'était réellement, de penser que bientôt il n'aurait plus de prétexte pour venir tous les soirs faire une visite à sa grand-mère, qui n'avait plus besoin de médecin. Alors ses entrevues et ses conversations du soir seraient fatalement interrompues. À la vérité, Taro paraissait vouloir prolonger ses visites longtemps, car bien que sa malade se déclara guérie, il ne voulait pas lui reconnaître cette guérison. « Vous ne toussez plus, » disait-il à Madame Marguerite, « c'est très bien. Mais il y a encore du souffle et des râles qu'on entend à l'auscultation seulement et qui doivent disparaître complètement, pour que moi, médecin, je vous déclare guéri. » Et tous les soirs, il l'auscultait. « Il y a du mieux, toujours du mieux, mais tout n'est pas fini. » Et après avoir prescrit quelques remèdes anodins, après lui avoir souhaité un bon sommeil, il sortirait avec Hélène. Alors, seuls, assis en face l'un de l'autre, devant la fenêtre ouverte, ils reprenaient leur entretien que l'horloge avait interrompu la veille, ou bien, sans parler, ils restaient à respirer les senteurs printanières que la brise apportait de la campagne, ou bien à suivre une étoile au ciel. Ils n'avaient pas besoin de la parole pour s'entendre. Hélène avait une telle foi dans le jeune médecin que le plus souvent elle n'allumait même pas sa lampe et qu'il demeurait ainsi dans l'obscurité sans autre lumière que celle qui tombait du ciel étoilé et qui donnait à leur visage une pâleur argentée au milieu de laquelle leurs yeux lançaient des rayons. Un soir qu'ils étaient ainsi dans l'ombre, car il n'y avait ni lune ni étoile au ciel, 10 heures sonnèrent sans que Taro parût disposé à se retirer. « Vous n'avez pas entendu ? » dit-elle. « Si. » « Mais vous n'insisterez pas pour me mettre à la porte, n'est-ce pas ?»« Non, certes. »« Eh bien, encore un moment. » Comment eût-elle insisté pour le faire partir quand elle désirait au contraire qu'il ne partît point ? Il resta donc, mais au lieu de continuer leur entretien, il garda le silence, et se penchant en avant, il la regarda. Dans le silence, elle entendait sa respiration rapide. Qu'avait-il donc à dire qui l'oppressait ainsi et lui faisait chercher ses paroles ? Cette pensée la rendit tremblante d'émotion et d'angoisse. Éperdue, elle avait fermé les yeux. Tout à coup, elle sentit qu'il lui prenait les deux mains et qu'il la tirait à lui. Avant qu'elle pût résister, elle fut dans ses bras, sur sa poitrine, dans une étreinte passionnée et deux lèvres brûlantes se posèrent sur ses lèvres. Elle éprouva un anéantissement délicieux et mortel, mais revenant bientôt à elle, elle se dégagea et se jeta en arrière. Dans ce mouvement, une chaise tomba avec fracas. Le médecin allait saisir Hélène de nouveau dans ses bras quand, dans le silence, ils entendirent la voix de Madame Marguerite qui, réveillée par la chute de la chaise, appelait sa petite fille d'une voix effrayée. « Hélène, que se passe-t-il ? » ? « Rien, grand-mère. » Puis s'adressant à Taro, « Partez. »« Mais c'est impossible, chère Hélène, pas en ce moment. »« Hélène ! » cria la grand-mère, « Partez, je vous en supplie. »« Eh bien, à demain, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, à demain. » Et Taro sortit sur la pointe des pieds, tandis qu'Hélène, ayant allumé une lumière, entrait dans la chambre de sa grand-mère.